Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence pour ce 181e numéro de Métropolez-vous. Merci d'être fidèle à cette émission. La guerre en Ukraine est hélas toujours à la une de l'actualité. Il y a fort à craindre qu'elle le reste encore quelques temps. Les images et les témoignages terribles, souvent glaçants, qui nous viennent de ce pays à la fois si loin et si proche de nous, le sort des Ukrainiens ont déclenché une vague de solidarité dans toute l'Europe et en particulier en France. Beaucoup de Toulousains se sont rappelés ou ont appris en cette triste circonstance que leur ville était jumelée avec Kiev, la capitale ukrainienne qui vit aujourd'hui sous les bombardements. Un jumelage ancien qui remonte à près d'un demi-siècle, dont l'histoire, les échanges qu'il implique entre les deux villes sont souvent peu connus des citoyens. Les liens entre Toulouse et Kiev obligeaient la municipalité et la métropole toulousaine à être plus solidaires que jamais avec les Ukrainiens. Et il nous oblige à consacrer un numéro de Métropolez-vous à ce jumelage et aux opérations d'aide de soutien en cours. C'est le moins que nous puissions faire. Cette émission est donc dédiée à l'histoire du jumelage Toulouse-Kiev et aux actions de solidarité envers l'Ukraine et les Ukrainiens dans la métropole toulousaine. À la mairie de Toulouse, il y a un élu en charge des relations avec les villes jumelées. Nous le connaissons bien, Métropolez-vous, puisqu'il est souvent venu dans cette émission. Cet élu, c'est Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'attractivité, du tourisme, de l'Europe et de l'international. Bonjour monsieur le vice-président, bienvenue à vous aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, pour tous ceux qui nous écoutent, je voudrais qu'on précise d'abord quelles sont les villes qui sont jumelées avec Toulouse à ce jour et en quoi consiste votre délégation des relations avec les villes jumelées.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc six jumelages, Toulouse a six jumelages, donc Atlanta, Tel Aviv, Bologne, Elche en Espagne, Chongqing en Chine et bien entendu Kiev. Au-delà des jumelages, on a surtout une vingtaine en tout de coopérations avec des villes à l'international. Hein, parce qu'au-delà des jumelages historiques, culturels, plutôt consacrés aux petites villes qui ont peu de liens avec l'extérieur, les grandes villes se sont davantage consacrées et de manière grandissante, depuis 2014, on va vers des échanges équilibrés sur des sujets qui intéressent davantage, économique, formation, santé, évidemment, tourisme, culturel, bien entendu, patrimoine. Donc, vous voyez l'étendue des sujets sur lesquels on travaille à l'international.
Est-ce qu'on peut dire que ces jumelages sont une composante assez importante de votre mission de chargé des relations internationales à Toulouse Métropole ?
Comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire les jumelages, donc là on a un héritage de six jumelages. En tout, dans les communes de la métropole, il doit y avoir une quinzaine, chacun à son jumelage. Mais c'est davantage donc les coopérations. Et là, on implique l'Université fédérale, le CHU. On a d'ailleurs un groupe, ce qu'on appelle un comité de pilotage avec la région, où on partage les informations sur les actions que l'on mène à l'extérieur de façon à les mener groupées sur des actions qui font sens.
On peut dire que les jumelages, en tout cas certains d'entre eux, ont des retombées véritables sur l'économie, les universités et la recherche toulousaine, métropolitaine, voire l'événementiel peut-être.
Tout à fait, ça retouche, et c'est pour ça que je pense que j'ai eu ces délégations groupées, celle de l'attractivité en général, qui consiste à ramener donc des fonds, alors je pense à des fonds européens ou des fonds d'aide internationale, etc., mais à ramener des fonds, des talents, des investisseurs, des touristes, des événements, des tournages aussi. Voilà, donc moi, ma délégation, mon travail à la mairie et à la métropole, c'est d'amener des richesses humaines, financières, des rencontres à Toulouse.
Six jumelages, donc, historiquement, aujourd'hui, à Toulouse. Est-ce qu'il y en a encore qui pourraient être noués ou est-ce qu'on en reste là et on essaie de travailler sur l'existant ?
Alors, on travaille sur l'existant. Alors, je pense à Atlanta, Tel Aviv, Bologne, où là, on a des liens entre les écoles d'ingénieurs, encore l'université, le CHU, des acteurs économiques. Hein, Atlanta, SupaEro travaille avec Georgia Tech. La Toulouse Business School travaille avec Georgia State. Avec Tel Aviv, il y a des échanges de start-up, etc. Donc, suivant un peu les villes, on travaille sur différents sujets. Dernièrement, on a ouvert, alors c'était en 2018, une coopération très importante avec Montréal, par exemple, parce que Montréal, Airbus s'y est installé en rachetant la série de 200 de Bombardier, Alstom aussi. Et puis, il y a des liens assez logiques, on renforce. Pareil avec Séville, avec Hanoï, vous voyez. Donc, c'est vraiment au gré des opportunités, de ce qui fait sens. On cherche ce qui fait sens et ce qui apporte de l'intérêt mutuel. Parce que l'intérêt mutuel, on n'a pas trouvé mieux pour qu'une coopération dure.
Voilà, au-delà de l'aspect aussi fraternel, fraternité entre les peuples, bien sûr, qui était à la base des jumelages entre des villes de pays différents. Merci pour toutes ces informations. Je crois que nous aurons déjà appris pas mal de choses en vous écoutant. Nous allons parler plus précisément, bien sûr, du jumelage Toulouse-Kiev dans quelques minutes. Mais tout d'abord, place à l'actualité métropolitaine, comme d'habitude, avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous commençons avec un bien triste anniversaire. 10 ans après, Toulouse et Montauban se souviennent et commémorent les attentats de Mohamed Merah.
À l'occasion du 10e anniversaire des attentats de 2012, la mairie de Toulouse a souhaité rendre un hommage appuyé aux victimes de Merah par 2 initiatives symboliques. Une grande banderole marquée d'un liseré noir en coin et portant l'inscription « Mars 2012, Toulouse se souvient » est déployée sur la façade de l'hôtel de ville jusqu'au 21 mars. À quelques pas de l'arbre du souvenir planté en 2013 dans le square de Gaulle, la mairie installe un dispositif mémoriel. Une installation scénographique rappelle l'identité des 7 personnes assassinées et des 2 personnes grièvement blessées à Toulouse et à Montauban lors de ces attentats, ainsi que le déroulé de ces 3 journées sanglantes qui ont endeuillé les 2 villes. Le public y découvrira également des repères historiques sur l'installation de la population juive à Toulouse. Une cérémonie en hommage aux victimes aura aussi lieu le 20 mars à la Halle au Grain en présence du président de la République et d'Isaac Herzog, président de l'État d'Israël.
Une bonne nouvelle maintenant, la commission d'enquête environnementale a validé le projet de 3e ligne de métro.
L'enquête publique a eu lieu du 15 décembre 2021 au 28 janvier dernier. La commission estime que les principaux enjeux, tels que le respect de l'environnement naturel et humain, le respect du patrimoine bâti, la mobilité, ont été bien analysés et traités. Environ 1900 arbres vont être abattus à l'occasion de la construction de cette 3e ligne de métro à Toulouse. 5000 devraient être replantés, ce qui fait dire à la commission d'enquête que le remplacement des arbres détruits au taux de 2 pour 1 semble réaliste et suffisant. La commission fait cependant quelques recommandations. Pour elle, il est important de faire respecter un catalogue de bonnes pratiques par les entreprises sous-traitantes lors des travaux. Les 3 commissaires rappellent en outre les risques que constitue la présence d'engins de guerre dans le sous-sol, vestige des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La commission émet donc une recommandation afin qu'une surveillance particulière soit assurée.
Et pour finir, une information qui nous concerne tous, c'est la Semaine internationale du cerveau, Corinne.
Du 15 au 20 mars, le Quai des Savoirs et le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse s'associent à cette manifestation internationale organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en France. À Toulouse, le Muséum et le Quai des Savoirs s'y associent chaque année avec un vaste programme de conférences et de rencontres. L'occasion de découvrir au Quai des Savoirs les stratégies que déploie notre cerveau pour faire face à des problèmes nouveaux. Prendre des décisions, faire des choix, se forger des opinions via les biais cognitifs. Ces biais cognitifs qui vous sauvent de bien des situations, mais qui peuvent également altérer votre jugement. Au muséum, ce sont les perturbateurs endocriniens et leurs conséquences sur le cerveau qui seront passés à la loupe.
Le flash d'informations hebdomadaires de Corinne Saint-Félix et Jean-Claude Dardelet. Je vais vous inviter à réagir, comme on le fait traditionnellement dans cette émission, aux informations de ce flash. Il y en a une, malheureusement, qui n'est pas gaie non plus. C'est la première qui concerne la commémoration des attentats et des assassinats commis par Mohamed Merah il y a 10 ans à Montauban et à Toulouse. Mais évidemment, il tombait sous le sens d'organiser quelque chose pour marquer ce triste anniversaire.
10 ans déjà, vous vous rendez compte ?
Oui.
Donc 10 ans, c'est une étape de mémoire importante. Et on le voit bien, les conflits, la violence, c'est ni virtuel, c'est ni ailleurs, c'est maintenant. On le voit, aujourd'hui, on revient.
Oui, puis on peut tous y avoir, y faire face, voilà, malheureusement.
Avec un retour aux guerres conventionnelles. En ce moment, il y a une guerre conventionnelle en Europe, ce qu'on ne croyait plus possible. On pensait avec les guerres en Irak ultramodernes, avec des drones, etc. Là, aujourd'hui, on revient à des guerres conventionnelles, une violence inouïe, des milices, des attaques de civils. C'est sur notre territoire. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est maintenant. Donc voilà, ce devoir de mémoire, ces 10 ans, prennent un sens tout particulier aujourd'hui sur même les fondements de la démocratie. La démocratie est attaquée à bien des égards.
Alors peut-être aussi une réaction sur la deuxième information concernant la troisième ligne de métro. Bon, le chantier avance à son rythme, mais là c'est une étape importante qui vient d'être franchie.
Oui, alors on voit, c'est l'étape de toutes les précautions. Précautions environnementales, l'inclusion des sous-traitants, etc. Donc toutes les précautions sont prises. On voit que la décision répond à un besoin, le besoin de l'attractivité de Toulouse, du désenclavement d'une ville comme Toulouse, hein, donc c'est important. Et avec un troisième élément, le financement est là. Donc maintenant, le triptyque est rempli, les travaux débutent, nous en sommes ravis.
Eh bien, merci pour ces réactions. Nous reprenons maintenant notre discussion en revenant au sujet principal de cette émission, le jumelage Toulouse-Kiev et la solidarité de la métropole avec les Ukrainiens.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse, en charge des relations avec les villes jumelées, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'attractivité du tourisme, de l'Europe et de l'international. Un peu d'histoire pour commencer. Toulouse et Kiev sont jumelés depuis combien de temps? Et quelles ont été les personnes à l'origine de ce jumelage à l'époque? Si tant est qu'il y a des personnes bien précises hein, qui aient concouru à l'éruption de ce jumelage qui dure encore aujourd'hui.
Oui, alors, l'archéologie d'un jumelage, quand on regarde tous les jumelages un petit peu de toutes les villes, c'est souvent au gré des rencontres d'un élu ou d'une opportunité. Bon, celui-là, je pense que si on fait cette archéologie, je pense qu'on peut y voir d'autres signaux. Hein, c'est-à-dire, après la guerre, c'est la SFIO, hein, l'Internationale Ouvrière, les maires successifs de Toulouse viennent de la SFIO. Et puis, en 1973, Pierre Baudis est élu. Et le jumelage avec Kiev arrive en 1975. Il a été signé le 7 juin 1975, donc 2 ans après. On imagine une année de négociation. On imagine peut-être un signal que Pierre Baudis, entre droits, a voulu envoyer aux anciennes édiles internationales ouvrières. Donc je pense qu'il y a un message politique fort, alors que Kiev était au sein de l'Union soviétique en pleine guerre froide. Je pense qu'il y a un signal à y voir de ces liens entre la Rome du Nord. Kiev, on l'appelle la Rome du Nord, et la Ville Rose.
Et puis c'est aussi le berceau de la civilisation russe, de la culture russe, Kiev. On l'a rappelé récemment, malheureusement, à l'occasion des événements en cours. En parlant d'événements, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers de grande date dans le cadre de ce jumelage? Je pense entre autres à un autre triste événement, l'explosion de la centrale nucléaire à Tchernobyl, pas loin de Kiev.
Alors sur Tchernobyl, vous voyez les années 86, je crois.
86.
Ouais, ça. Déjà, voyons les marqueurs un petit peu ukrainiens à Toulouse. Alors il y a peu d'Ukrainiens à Toulouse. La plus grosse population vient sans doute autour de Carmo, Albi, c'est les mines, c'est des mineurs d'Albi où on a un certain nombre d'associations, y compris donc dans les universités, on a aussi à peu près, on va dire au total, 200-250 Ukrainiens. Donc peu de ressortissants, ils sont là, ils sont très présents, ils sont actifs. Après, les symboles ou les marqueurs ukrainiens à Toulouse, alors on a la statue de Taras Shevchenko et le grand peintre, poète, c'est le Victor Hugo ukrainien. Et je tiens à le souligner parce que ce sont les mineurs de Carmo et d'Albi qui ont fait construire cette statue, qui l'ont offerte à la ville de Toulouse. Qui est installé à Albanmainville, au Mirail, parce que ce poète voulait un endroit, une plaine, il avait une relation avec la nature. Et puis surtout, sa relation, c'est l'émancipation des ouvriers, la libération un peu des joues autocratiques, etc. Bon, il y a une symbolique très forte. Et il est honoré très régulièrement. Donc à Toulouse, on a cette statue. Il y en a peu en France. Hein, on doit en avoir 2 ou 3. Donc Toulouse a cette statue. Elle est importante. Il y a aussi une statue de Mikhaïl Gritsouk, qui est aussi... Alors lui, Taras Shevchenko, c'est 19e siècle, 20e siècle. Ce sculpteur, au décès duquel, sa femme, Natacha, a offert la statue de Picasso, qui est aujourd'hui à Compense Caffarelli, dans les jardins. Donc c'est important. Et puis dernièrement, en 2018, la mairie de Kiev a offert la statue d'Anne de Kiev, donc Anne, alors que les Russes appellent Anne de Russie, qu'en France on appelle Anne de France, hein, puis qui est aussi la grand-mère de l'Europe, c'est elle qui est à l'origine, tous les rois et les royaumes de France ont des gènes d'Anne de Kiev.
Oui, c'est la première reine, en quelque sorte, étrangère que le royaume de France a eue.
Absolument. Donc, mariée, parce que les mariages consanguins n'étaient pas autorisés, il a fallu aller chercher la plus méritante des princesses, et Anne de Kiev est apparue comme une évidence. Et elle a un destin incroyable. Moi, je vous invite à lire sa vie, c'est un roman. On a d'autres marqueurs, hein. Il y a la rue de l'Ukraine, la rue de Kiev, la rue de Crimée au minime, la rue de Sébastopol. Donc, vous voyez, on a pas mal de liens, il y a plein de marqueurs ukrainiens à Toulouse.
Alors, en parlant de marqueurs, il y a des liens aussi dans divers domaines entre Kiev et Toulouse. Quels sont ceux où il y a le plus d'échanges et de relations depuis que les deux villes sont jumelées?
Oui, alors, bon, déjà, historiquement encore, la culture. Ensuite, alors, c'est entretenu. Il y a évidemment un fond de sauce qui est entretenu. Il y a le printemps français en Ukraine, tous les printemps, donc. Et là, régulièrement, des artistes y participent. Il se passe un nombre de choses. On a eu des rendez-vous gastronomiques, etc. Bon. Dans le monde des universités et des sciences, UT3, Paul Sabatier, entretient depuis une vingtaine d'années des liens entre les écoles de chimie. Et là, il y a vraiment des liens très forts. Donc, il y a une biennuelle, c'est-à-dire enfin, une fois à Toulouse et chaque année suivante à Kiev, des liens sur des sujets de recherche en matière de chimie. Et d'ailleurs, vous voyez, tous ces liens humains qui sont créés par ces relations, aujourd'hui, sont des liens de sauvegarde. Enfin, ce sont ces professeurs qui s'accueillent entre eux. On a des professeurs d'école de chimie qui, en ce moment, sont accueillis par leurs collègues. Et il y a d'autres liens dont je parlerai peut-être dans un instant. Donc, l'école de chimie fait beaucoup de choses. Avec 5 instituts et universités en Ukraine, plusieurs doctorants ukrainiens en chimie, pas mal d'étudiants, etc. Dans le domaine de la santé aussi, l'oncologie, la cardiologie, le traitement du VIH, il se passe pas mal de choses. Tiens, dans les liens humains qui font que Toulouse est une destination pour pas mal d'Ukrainiens, par exemple la directrice du musée Korolev de l'espace vient d'arriver avec sa famille, est accueillie par des amis de la Cité de l'espace, parce que ce sont des liens humains. Korolev, le créateur de la R7, à l'origine de tellement de choses dans le spatial, est né à Kiev. Donc beaucoup de liens. Après, il y a des coopérations évidemment aéronautiques quand Kiev a l'entreprise Antonov, le plus gros avion du monde. Donc des sociétés Crouzet, Thales, Airbus a des relations aussi parce qu'ils ont un immense porteur, un avion fantastique qui permet de transporter des satellites d'un bout à l'autre du monde pour aller sur les pas de tir ou ailleurs. Alors cet avion, ce plus gros avion a été détruit malheureusement récemment, il y a quelques jours.
Si on revient justement au conflit en cours, est-ce que avant l'invasion et l'attaque de l'armée russe en Ukraine, vos relations à Kiev vous avaient alerté sur les intentions de Poutine et l'imminence d'une guerre ?
Alors, au niveau d'une ville, j'avoue très humblement qu'on est assez peu vigilant sur les signaux liés à des conflits armés. Je pense que ce conflit armé, de toute façon, a dérouté tout le monde. Personne ne s'y attendait. Les plus grands stratèges dans le monde entier n'imaginaient pas une seconde ce qui pouvait s'arriver. Personne n'y était préparé. Donc, en ce qui me concerne, 2014, on était dans la révolution orange de Maïdan. Donc, moi, les relations avec l'Ukraine que l'on a entretenues, c'était un peuple qui retrouvait sa liberté, qui était en train de reconstruire sa démocratie. Vous voyez, on n'était pas dans la vigilance d'un futur conflit, on était dans la construction de nouvelles relations, justement en faisant évoluer un peu nos relations, entre guillemets, culturelles, vers toutes ces relations d'échange équilibré dans la santé, l'université, mais aussi une action que je tiens vraiment à souligner parce qu'elle est porteuse de plein de choses, surtout en ce moment, c'est que depuis très longtemps, encore une vingtaine d'années, les centres de vacances de Toulouse accueillent entre 20 et 30 jeunes, entre 12 et 15 ans, ukrainiens dans ces centres de vacances. Et là, on a plusieurs Ukrainiens qui les accompagnent, des familles qui les reçoivent justement pour faire cette immersion, cette création de liens, qui trouvent aujourd'hui, ce sont ces familles qui aujourd'hui accueillent leurs amis ukrainiens constitués depuis 20 ans. Et voilà, donc toute cette chaîne humaine, ces interconnexions du cœur. Donc merci à l'association Yaroslavna. Qui est la dame de Kiev, justement. C'est le nom de cette princesse du XIe siècle. Merci à Yaroslavna pour tout ce qu'ils font pour tous ces enfants. Et on parlera aussi des autres associations qui se sont constituées à l'occasion.
Nous avons reçu il y a peu, à la matinale de Radio Présence, Hugues Negretto, qui est le président de l'association Yaroslavna. Est-ce que vous gardez toujours vos contacts avec Kiev, malgré le conflit et la violence des combats, les bombardements? Le contact n'est pas rompu?
Alors, à la première heure des conflits, Jean-Luc Moudin qui a pris contact avec Vatili Klitschko, donc le maire de Kiev. Donc oui, les liens existent. Je ne vous cache pas que mon homologue, adjoint au maire de Kiev, a vu sa délégation évoluer. Il est maintenant en charge de la défense du territoire. Donc je ne vous cache pas que les relations directes que l'on a
sont compliquées
et même on est très prudent parce que toute communication peut être
espionnée, bien sûr.
C'est délicat.
Alors qu'est-ce que Toulouse, on y vient, qu'est-ce que Toulouse et la métropole et ses communes ont mis en place pour venir en aide aux habitants de Kiev et aux Ukrainiens?
Alors, fort de tous ces liens, la solidarité s'organise autour de pas mal d'actions. Alors, il y a le sujet des dons. Des dons que l'on encourage à être financiers. Aujourd'hui, ce dont ont besoin nos amis ukrainiens, c'est d'argent pour acheter, et puis parce que ça contribue à l'économie aussi sur place, de pouvoir échanger, etc. Donc des dons financiers que l'on encourage à donner aux associations, aux grandes ONG qui ont les dispositifs. C'est très professionnel, on ne s'improvise pas ONG.
C'est aussi la Croix-Rouge, je suppose.
Exactement, la Croix-Rouge et bien d'autres, l'Ordre de Malte, etc. Après, donc, sur les dons de matériel, les dons de vêtements, par exemple, les gens, naturellement, ils n'ont pas besoin de vêtements aujourd'hui. Les besoins sont plus sur des biens de sécurité civile, hein, donc des lits de camp, des duvets, de la nourriture, des dispositifs de soins, des médicaments, tout ce qui se conserve, évidemment. Aussi des vêtements techniques, parce que les pompiers, aujourd'hui, bien non plus, voilà, en vêtements, il faut des casques, alors des gilets pare-balles, évidemment, mais bon, voilà. C'est compliqué, au-delà de l'Ukraine, évidemment, puisqu'il y a autour de la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie, donc il y a 5 pays qui sont aussi en souffrance autour de l'Ukraine.
Comment se passe aujourd'hui l'accueil des réfugiés dans la métropole? Alors, je sais que la ville de Toulouse a mis des locaux à disposition.
Alors, oui, je vous parlais des dons en les distinguant, donc financiers, les dons vers l'Ukraine, et les dons vers les réfugiés toulousains. Oui, il y a deux destinations,
ceux qui arrivent.
Donc pour ça, on a mis en place, donc, au travers du marché d'intérêt national, le MIN, qui a tous les dispositifs logistiques et la compétence pour les acheminer par des voitures. Voilà. Et là, on est en train d'ouvrir un autre, aujourd'hui d'ailleurs, le Hall 9, où là, on va accueillir d'autres types de dons sur la base de listes. Alors tout figure sur le site de la mairie, je vous invite vraiment à le consulter, il est à jour, avec ses listes très précises de ce qui est besoin, de ce qui est nécessaire. Et on vous invite à bien lister tout ce qui est dans les boîtes, parce qu'après, c'est du travail de tri, de réorientation, etc. Donc, au-delà des dons, il y a l'activité du logement. Les gens qui arrivent, il faut les loger. Là aussi, il y a une grosse organisation. Hein. On a reçu beaucoup de propositions de la part des Toulousains. Alors, nous, on s'occupe des propositions de Toulouse Métropole. Alors, malheureusement, on ne peut pas recevoir les propositions de gens à l'extérieur de la métropole. Donc, ça aussi, on reçoit beaucoup de courriers. Je dois en recevoir 50 par jour.
Parce que toutes les communes, je suppose, se sont mobilisées. Toutes les communes de la métropole se sont mobilisées.
Alors, ça, je profite d'avoir ce micro, mais vraiment pour remercier avec tout le cœur et l'énergie possible de cette vague de solidarité. C'est impressionnant de voir toute cette générosité. Voilà. Alors, ensuite, l'accueil, c'est des gens qui vont prêter alors, un canapé dans un studio. Malheureusement, ce n'est pas là qu'on ira loger les gens qui arrivent souvent, c'est femmes et enfants, hein, la population déplacée, c'est des femmes et les enfants, les hommes sont à la guerre malheureusement. Donc on cherche plutôt des appartements équipés, une forme d'autonomie. Alors soit on partage un appartement avec une chambre indépendante, soit c'est un appartement libre que l'on meublé. Voilà. Et là on accompagne et on a tous les services sociaux de la ville. Il y a beaucoup de services de la ville, hein, qui sont mobilisés, le service solidarité, cohésion, mais aussi transport, petite enfance, éducation, sécurité civile. Vous voyez, on a très régulièrement, hein, une fois par semaine, une cellule de crise qui se réunit et on met un peu en connexion tous ces dispositifs voilà, autour du logement. On a mobilisé aussi les 12 bailleurs sociaux pour vous voyez, les logements qui sont en travaux entre deux locations, les mettre à disposition pour ces gens qui arrivent. Après, je ne vous cache pas qu'on recherche plutôt les logements collectifs de type caserne, colonie de vacances, vous voyez, centre où on peut accueillir
plusieurs familles,
Il y a une logistique déjà installée.
C'est un point important pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient apporter leur aide, voire mettre à disposition ou une pièce chez eux ou des locaux dont ils sont propriétaires. Il faut savoir à quoi on s'engage, parce qu'on ne peut pas le faire à la légère, hein, quelle que soit la bonne volonté. À quoi ils s'engagent? De quelles aides bénéficient-ils?
Alors, c'est une très bonne question, c'est la question qui nous est posée tous les jours. On demande à ce que les gens qui accueillent reçoivent pour une période limitée à 2 mois. Alors peut-être 1 mois, 2 mois, parce qu'après, ce n'est pas évident de recevoir quelqu'un chez soi.
Pour ça que je dis, il ne faut pas le faire à la légère. Hein.
Voilà, alors il faut savoir que l'accueil, c'est la préfecture qui gère les accueils. Ce n'est pas à la mairie qu'on demande, c'est vraiment à la préfecture, parce qu'il faut des papiers, il y a tout un dispositif administratif dont on parlera peut-être dans un instant. Nous remettons toutes nos propositions de logement à la préfecture de département, ce sont les départements qui gèrent, et au travers des CCAS, des dispositifs sociaux, ils sont réorientés vers ces logements. Alors, pour information, on demande à ce que les gens accueillent sur une période pas moins de 2 mois, plus évidemment si possible, mais on sait que ce n'est pas facile. Qu'elles assurent la nourriture du matin et du soir, parce que pour le midi, il y a des dispositifs d'accueil. Il n'y a pas d'aide financière attribuée aux logeurs. En revanche, les ressortissants, les déplacés, on appelle ça des personnes déplacées, elles bénéficient d'aide. Donc au travers de la préfecture et des dispositifs ouverts. Donc il y a vraiment une grosse organisation qui est mise. Nous, en tant que ville et toutes les villes de la métropole, au travers des crèches, des écoles primaires, on a des dispositifs d'accueil aussi des enfants.
J'allais vous poser la question pour la scolarisation, hein, des enfants qui arrivent d'Ukraine. Oui. Et pour leur apprendre le français, et d'ailleurs ça concerne aussi les adultes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour donner des cours de français aux adultes?
Alors, là aussi, on mobilise les universités, les ressortissants ukrainiens, parce que donc des traducteurs, il y en a. Après, voilà. Donc, c'est de la vie au quotidien à organiser tout de suite. C'est des urgences. Et là, on est aussi en train de mettre en place une sorte de parrainage, c'est-à-dire les gens qui parlent l'ukrainien ou le russe. Et ils le font, mais vraiment très spontanément et très généreusement, évidemment, puisque les premiers arrivés, c'est souvent ceux qui ont un lien local, j'en ai parlé tout à l'heure, qui ont une facilité de langue aussi, et qui sont les premiers ensuite à aider un peu les suivants qui arrivent.
Un dernier point rapide, je pense que les gens se posent la question, à qui on doit s'adresser en priorité si l'on veut faire des dons ou apporter son aide en tant que bénévole? Est-ce que c'est à la mairie de Toulouse? Est-ce que c'est à la métropole? Est-ce que c'est à la Croix-Rouge? Ou à d'autres associations?
Alors là, vraiment, un lien, allez sur le site de la mairie, vous allez voir tous les liens avec les ONG, les associations. Alors donc, je voudrais quand même remercier et féliciter Ukraine Libre Toulouse, hein, qui, là aussi, des Ukrainiens, des couples mixtes d'Ukrainiens qui mettent une énergie incroyable, une compétence remarquée, appréciée. Donc vraiment, on s'appuie sur ces associations. Donc le groupe Euromaïdan de Toulouse, donc Bereguina, qui est l'association plutôt Albi Carmo, qui ont là aussi des gens exceptionnels. Après, il y a toutes les associations européennes, hein, Pulse of Europe, le Mouvement Européen, les Jeunes Européens, les jeunes d'Erasmus, vous voyez, il y a vraiment une grosse dynamique. Les universités aussi, les écoles, c'est très beau ce qui se passe.
Merci beaucoup Jean-Claude Dardelès. C'est la fin de cette émission et je vous remercie encore une fois d'en avoir été l'invité, de nous avoir donné toutes ces explications sur l'histoire du jumelage entre Toulouse et Kiev, sur les échanges qui existent depuis longtemps entre les deux villes et sur les actions de solidarité en cours à Toulouse et dans la métropole toulousaine, dans toutes les communes, pour venir en aide aux Ukrainiens. Chacun aura pu constater, mais vous vous en doutiez, que les besoins sont grands. Si vous voulez aussi apporter votre aide de quelque manière que ce soit, en proposant un accueil ou en faisant un don matériel ou financier, je vous invite à vous connecter au site web de la mairie de Toulouse ou à celui de Toulouse Métropole pour en savoir plus. Alors Toulouse Métropole, c'est www.toulouse-métropole.fr. Vous trouverez la catégorie actualité, une rubrique Toulouse Métropole solidaire du peuple ukrainien. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.